c'est magnifique.
Je suis d'accord aussi avec ça, et j'ai beaucoup aimé ce que tu disais sur l'horizontalisation, hein, parce que être horizontal, c'est éminemment politique.
Voilà.
Je prends des exemples complètement triviaux, mais Facebook qui dit qu'il ne fait pas de politique, c'est vraiment horizontaliser, ce qui est vraiment ce qui arrive aujourd'hui à tous les niveaux, avec l'intermédiation algorithmique, mais avec plein d'autres choses aussi. C'est quelque chose d'absolument politique, et finalement non violent, j'ai envie de dire, mais quelque part de beaucoup plus pertinent dans le monde actuel.
Qui est... Non, continue, fini alors.
Et, oui, juste un truc qui m'a fait dans cette expo, et quand tu parlais de fait social total, je me suis demandé si en fait cette expo, je ne voulais pas dire aussi que le premier fait social total, c'était de dompter les éléments, où l'homme. Et si on revient à la notion de politique, quand est-ce que la politique a été créée? Elle a été créée par le. Enfin, je ne vais pas le dire de façon autoritaire, parce que je n'en sais rien, mais il me semble que c'est arrivé avec l'agriculture. Et qu'à partir du moment où on a fait d'irrigation et qu'on a stocké des grains, la politique a suivi juste derrière. Et donc en fait, dompter les éléments, ça a été le premier acte politique.
Et alors Jimmy disait justement qu'aussi pour eux tous les deux, mais lui en particulier, que c'était très important, c'est que l'agriculture a amené aussi la domestication des animaux. Donc pour lui, c'était aussi le moment charnière où la chose bascule aussi par rapport à l'instrumentalisation de l'animal, quoi.
Et pour aller encore jusqu'au bout, c'est d'autant plus pertinent aujourd'hui que finalement, donc il y a 10 000, 15 000 ans, on a l'agriculture arrivée, on a domestiqué, on a dominé la nature. Et aujourd'hui, dans l'Anthropocène, on se rend compte que c'est la nature qui nous domine. Donc on est en train de terminer le néolithique. C'est seulement maintenant qu'on y arrive. Mais du coup, ça ouvre tous les possibles.
Et tous les imaginaires. Les schémas type amérindien qui sont basé sur la, je ne sais pas pour dire vite, sur la, si c'est pas la fusion, mais la relation, la non-séparation, en tous les cas, avec, enfin, d'être cosmomorphe, pour le coup, élément de nature, et voilà, rassemblé à cet endroit. C'est vrai que depuis de nombreuses années, dans le domaine de l'art, en tous les cas, c'est vraiment. A besoin pour les artistes de recourir à ces pratiques, à ces attitudes, etc. Or là, pour ce qui est de ces artistes-là, c'est quelque chose qui leur appartient. Donc là, il y a un moment, bon, est-ce que c'est, on parlait de la notion, c'est alternative, mais en fait, est-ce que ça fait partie des alternatives que de reprendre, comme certains appellent les cultures de l'invisible ou les cultures de ces cultures cosmomorphe, allez, moi, on va s'approprier hein, ces optimalités, ce cosmomorphe, c'est bon, les concepts se... Voilà, est-ce que, tout simplement, c'est... Alors, c'est pas dans le retour à, mais ça veut dire que les cultures dites primitives redeviennent nécessaires, quoi.
Oui, enfin, il y a même... Elles sont plus primitives, quoi.
Pardon ?
Elles sont plus primitives.
Non, non,
fait.
Mais...
Enfin,
c'est une petite provocation
non, mais bien sûr,
pour
mais...
reprendre la notion... Ouais. Évidemment que le quai Branly, c'est les arts premiers, mais on dit quand même les arts premiers, je dirais.
Oui.
Donc là,
mais après,
le besoin que notre occidentalité, on n'arrête pas d'en parler, de ce besoin de se désanthropocentrer, si je puis dire, mais en fait, c'est une problématique occidentale. Enfin, faut-il le rappeler
Pardon, je crois aussi une autre dimension, c'est que de l'horizontalité qui est présentée ici, c'est que ça donne une importance à des petites choses.
Ouais.
Ça révèle leur importance, qu'elle soit locale ou plus étendue. Et j'irais même jusqu'à dire, peut-être au déplaisir de Pierre qui n'est pas là, qu'il me semble qu'il y a une dimension de care par ce geste. De prendre soin de cette vieille lampe flash qu'on a trouvée dans les races, première salle à droite, dans les racines d'un acacia. Près de l'église, machin. Prendre soin de ces choses.
Oui, mais j'entends ce que tu dis, mais après, là, je suppute sur les intentions et sur ce que pourraient être les artistes, mais c'est marrant, mais j'imagine pas forcément Jimmy ou Marie-Thérèse, en tout cas, peut-être Jimmy, dans le prendre soin. Moi, j'ai plutôt l'impression que, quand on parlait des Kanaks, par exemple, hein, j'ai plutôt l'impression que ce qui est intéressant, justement, c'est que il y a pas, y a, c'est prendre soin, ça suppose qu'il y a un état de comment dire, de pas de supériorité, mais tu vois, moi je suis capable de prendre soin de ce petit truc fragile, en fait, tu vois. Enfin, pas nécessairement. Mais j'ai plutôt l'impression que ce qui m'intéresse aussi, c'est que ils éclatent la nature, ce que sont les choses a priori, en fait. Et que du coup, ils ont le même rapport avec une petite lampe flash, avec des tessons de bouteille, qu'avec leur propre œuvre, en fait. Les choses sont égales. Elles sont à parts égales, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire que symboliquement, pour eux, et même ontologiquement, je dirais même aussi, c'est, elles ont la même valeur, en fait, d'être.
Donc c'est du care, puisqu'ils prennent soin de leur propre œuvre.
Oui, il y a du care, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même corporéité, en fait. D'accord. Tu vois, voilà. Okay. Voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve. Et c'est ça que je trouve, nous, en tant qu'Occidentaux, on a eu du mal à... Parce que, comme l'art aussi a subi la culture du postcolonialisme, de la modernité et de ce rapport d'appropriation... Quand on voyait certains artistes utiliser, voilà, se récupérer des figures de l'art premier, machin truc et tout, c'est, en fait, dès que tu dégages l'usage qu'on fait des objets, hein, de leur valeur esthétique, en fait, on se plante, en fait. Enfin, tu vois, on est dans un rapport de, justement, très postcolonialiste, en fait. Alors que ce qui est intéressant là, c'est que les choses sont, les usages se mélangent. Qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui est de l'ordre de, peu importe, en fait. Et en fait, on est dans d'autres dimensions, justement. Et c'est ça qui, je pense que c'est ça qui, pour moi, est profondément contemporain. L'enjeu, il est, je trouve qu'il se situe à cet endroit. Enfin, c'est vraiment, l'enjeu est là, quoi. Et c'est quelque chose qui n'est pas si évident à faire aujourd'hui en art, parce qu'on se trimballe encore avec ces vieux poncifs. Et moi-même, qui suis enseignante et qui essaye de mettre en garde les étudiants de ce point de vue-là, je veux dire, je vois encore que la plupart des écoles des beaux-arts, encore en France aujourd'hui, sont encore sur cet héritage de la modernité-là, en fait. Dans l'enseignement de l'art, on a des vieux réflexes. On prend les choses, on les manipule et paf, quoi, tu vois. Et c'est comme si, d'une certaine manière, on en fait des abstractions de fait, parce que c'est de l'art, en fait, tu vois.
On brise leur relation, voilà, avec c'est ça. Le tissu qui les a vus naître.
C'est ça. Et l'art qui n'est que de l'art, est-ce que c'est encore de l'art? Tu vois, et c'est une question un peu de Lao Tzu, enfin, je sais pas, très taoïste, mais je trouve qu'ils y répondent, justement, dans cette horizontalité, dans ces milieux qui s'interconnectent. Et oui, il y a pas de spectaculaire, contrairement à notre ami journaliste dont j'ai oublié le nom, mais qui, voilà, peu importe, mais qui était déçu parce que il trouvait pas de, même les objets archéologiques n'étaient pas spectaculaires. Heureusement, qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, enfin, est-ce que
pas.
Surtout pas. Et puis même, je dirais, il y a du, on peut voir du spectaculaire, comme tu disais, dans la petite chose. Enfin, c'est, je veux dire, le spectaculaire aujourd'hui, voilà, peut-être que le spectaculaire, on n'est plus dans la société du spectacle, tout simplement.
Enfin, ça fait longtemps que.
Bah oui.
Et Maria Teresa Alves également, que leurs travaux respectifs. Oui. Sont anti-monumentaux, spectaculaires.
Mais justement, de ce point de vue-là, on aurait tort de ne pas avoir une posture politique, pour moi, à cet endroit-là. Ça serait à la fois mal les connaître, je trouve. Ça serait à la fois les catégoriser trop rapidement sur des choses qui ne sont pas. Et par contre, c'est vrai que ça suppose, de la part d'un certain nombre d'interlocuteurs qui avec qui nous travaillons, ça suppose de faire ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, de mettre les choses en perspective et de sortir un peu de l'entertainment artistique, quoi. Donc c'est vrai que ça suppose du travail, quoi.
L'affirmation du besoin de spectaculaire est à la mesure de la petitesse du regard.
Ça, c'est qui?
Je viens de l'inventer. Ah,
bon. Parce que bon, je ne vois pas Guy Debord sortir de son...
C'est ce qu'on dit, on dit que la tradition est au bout du regard.
Il était, comme hier, il était question de passage aussi, me semble-t-il. C'est quand même, on ne passe pas d'un système organisé par une classification verticale à un système horizontal du jour au lendemain.
C'est clair.
Hein? Bah oui.
Et que par ailleurs, je voudrais qu'on s'entende sur ce qu'est un discours. c'est qu'un discours, c'est une modalité de lien social. La verticalité en est une, l'horizontalité en est une autre. Qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est qu'on peut très bien se faire élire sous le prétexte de l'horizontalité et, une fois élu, appliquer une verticalité pur jus et extrêmement traditionnelle.
C'est en acte.
J'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Non, mais
c'est en acte et c'est assumé. C'est parfait.
Donc ça veut bien dire qu'on passe de l'un à l'autre.
De l'échelle du micro à l'échelle du Macron.
Mais. mais. Ce que je veux
dire,
à partir du moment où tu l'as dit deux fois cet après-midi, donc je veux absolument dire que je ne suis pas d'accord avec toi et que de surcroît tu as tort, Sandra. C'est que un artiste produit un savoir. Que ce ne soit pas un savoir transmissible classiquement et que ce ne soit pas un savoir qui est l'ordre des connaissances, je suis d'accord. Mais toute œuvre est une production de savoir, la preuve en est cette exposition. Puisqu'elle vient produire quelque chose qui est un décalement. Tu l'as repris du côté de la poésie, que eux revendiquent. Qu'est-ce que c'est que la poésie? Sinon, le fait de proposer un nouveau système de symbolisation et d'imaginarisation du monde.
Mais
donc une nouvelle manière
d'habiter
le monde.
Mais elle a parlé de connaissance, elle n'a pas dit que ça
c'est...
pas
elle l'a dit deux fois, enfin d'une manière différente.
Non, mais je pense que la question se pose. Après, qu'est-ce que tu entends par savoir, en fait? Parce que moi, je dirais que ça produit un signifiant, mais pas un savoir. Ça produit du langage, oui, un langage propre à l'art d'une certaine manière. Mais après, tu vois, c'est des questions qui sont très vastes.
Puisque c'est la journée est comme ça, le réduire à un système.
Oui, certes. Alors.
Voilà. Enfin, mais c'est parce que c'est la journée, les deux jours qu'on vient de passer, et la fatigue qui me font dire ça. Hein. Mais quand même, mais je pense que ça peut être juste. Quand même. Enfin, je pense que je serai encore d'accord avec moi demain. Peut-être. Donc forcément, toute prise de position qui vient faire valoir ce qu'il en est d'une modalité de relation au monde. C'est une prise de position politique, parce que c'est une prise de position singulière qui, en plus, est valable pour chacun, peut venir modifier la manière dont chacun va l'habiter, ce monde-là. Donc, tout ça pour dire que...
Tout est politique.
Non, pas tout est politique. Ah bah non, justement, j'en ai réduit le champ, me semble-t-il. Oui. Parce que ça vient provoquer cet écart. Cette distance entre d'un système
bien
à
sûr.
Un autre, enfin deux systèmes à un autre, et du coup.
Oui, une articulation.
Voilà, d'articulation.
Mais moi, je ne suis pas convaincue par le savoir, par le terme savoir, à cet endroit-là, je trouve.
Mais parce bon, que. Moi, ouais.
Mais non, mais après.
Quand j'ai invité l'exposition, effectivement, j'étais un peu déçu. Hein. Sans doute que j'avais imaginé trop de choses. Mais à la réflexion, ma première réaction, c'est de dire c'est un cabinet de curiosité. C'est-à-dire, on retrouve. Je suis désolé, mais on retrouve des symboles de la connaissance de la Méditerranée. Mais c'est pas. Et c'est pour ça que j'interviens maintenant, c'est-à-dire que c'est pas ces symboles qui sont liés à une connaissance savante, c'est une connaissance personnelle de ça. C'est-à-dire qu'on a retrouvé les signes de cette connaissance de la Méditerranée. Et ils sont présentés comme tels. Mais moi, où je suis frustré, c'est qu'on a une sorte de construction d'un système parallèle, qui n'est pas un système dominant, surplombant, comme on dit, mais qui est un système homemade, quoi, fait maison, fait à travers ses déambulations, ses circulations. Mais ce qui me frustre, c'est que j'ai pas le vécu de ces découvertes, j'ai des recompositions d'espace qui me montre là où on l'a trouvé, etc., une sorte de cartographie. Ce qui me manque, c'est la dimension expérientielle.
Oui, je sais, mais je le sais d'autant qu'à l'IAC, on est très bien placé pour le savoir. Enfin, je veux dire, au-delà de moi-même en tant que commissaire, l'expérientiel dont tu parles, enfin l'expérience.
Oui.
Bon, bref, parce qu'il y a présentiel maintenant, donc ça peut être.
Oui.
Alors, du coup, c'est vrai que. Dans le cadre de la saison 1 ou du cycle précédent du labo, je dirais qu'il y a quand même une relation entre labo et programmation, ou enfin le projet artistique. Il y a en tous les cas une porosité de fait. On voit bien que le cycle 1 s'achève d'une certaine manière, mais pas de façon définitive, avec l'expo d'Anne-Véronica Janssen il y a précisément un an. Et vous noterez bien que au cours de toute cette période, sur la notion d'expérience était complètement phénoménologiquement complètement comme un appel, comme presque une notion immédiate. Je veux dire, s'immerger dans un brouillard d'Anne-Véronica Janssen, l'expérience est proposée. En tous les cas, c'est pas l'expérience de l'artiste, plutôt celle qui nous est proposée. Donc on a traversé toutes sortes d'expositions qui jusqu'à présent ont proposé en tous les cas de l'expérience aux visiteurs, et donc créer une relation plus immédiate avec le visiteur, entre visiteur et l'œuvre. Là, c'est vrai qu'on repart avec des objets de nature classique, en ce sens que on va avoir des objets archéologiques, de fait ils le sont par leurs origines. Et c'est vrai que c'est pas, et qu'en même temps les plantes sont tout à fait récentes, mais que c'est pas, ça se joue pas dans leur, tout ça pour dire que dans leur démarche à eux, ça se joue pas à cet endroit-là. Ça se joue pas dans l'énoncé des savoirs et dans la taxinomie, mais ça se joue pas non plus dans cette notion de l'expérience telle qu'on l'a, ce qu'on appelait l'expérience ISC. Et c'est quelque chose d'autre qui est en train de se jouer. Et donc moi, d'une certaine manière, je ne peux pas te dire ce qui se joue. Voilà. Après, assumer le grand vide de la Halle Nord, c'est aussi rentrer dans un espace immersif aussi. Pour Anne-Véronica, c'était un vrai ressenti, ce n'était pas juste une parole de politesse, c'était vraiment quelque chose qu'elle partageait. Et c'est pour ça que c'est encore à mi-chemin. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans l'accrochage classique, on est dans quelque chose d'autre, mais chez des artistes pour qui les relations à l'espace et à la perception ne sont pas prédominantes. Sauf que, malgré tout, justement, l'une des deux artistes, donc Marie-Thérèse, c'est pour ne citer qu'elle, a quand même induit, à part le biais de la coloration des murs, le biais de ce parcours, cet espace-mouvement dont tu parlais tout à l'heure. Donc c'est pour ça que je sais que d'un côté, Jimmy parle d'un poème, pour aussi tout de suite dire qu'il est tragique, voire épique, mais Maria Teresa va quand même parler d'espace à un moment. Tu vois, donc voilà, parce que ça travaille avec Edmain et Corpus n'avait jamais travaillé ensemble. Donc pour moi, c'est, on peut dire ovniesque dans le bon sens du terme. C'est pour ça que la proposition aussi, à travers celle de Sandra, c'est de creuser ensemble pour voir là où ça nous amène aujourd'hui. Mais ce que je pressens, c'est que c'est que le début d'une histoire. Alors après, avec d'autres types d'artistes, d'autres types d'œuvres, mais c'est très clairement, je ne dis pas qu'on abandonne à l'IAC la relation à espace-perception, mais c'est un outil qui est acquis, donc il va se greffer sur d'autres manières d'aborder les choses. Mais bon.
Je veux bien suivre. Parce qu'effectivement, cette question de la mise en récit, elle est non, c'est pas un récit qui est proposé, c'est-à-dire que c'est à travers la circulation qu'on a. On construit son propre récit,
oui, c'est ça.
En quelque sorte. Donc,
oui, c'est ça. C'est un outil, en fait, cette expo. Voilà. Quoi. Enfin, c'est vrai que c'est pour ça qu'elle est, elle est complexe. Hein, elle est doucement complexe, je dirais, en fait.
Oui.
Mais parce que même quand Jimmy dit que c'est un poème, on pourrait dire, oh, ok, c'est un poème, ok, merci, quoi. Tu vois, c'est en quoi c'est un poème, en fait. Est-ce qu'il y a une structure, à quel point la métaphore de la poésie est filée, en fait.
Ah, mais je crois que c'est pas une métaphore. Je crois que c'est pas une métaphore.
Oui, justement.
C'est structurellement un poème dans le sens où c'est un
ça.
Assemblage.
Oui, c'est ça.
Et c'est un assemblage de lettres, c'est-à-dire d'éléments qui n'ont pas de sens les uns séparés des autres.
C'est là où la métaphore prend son sens.
Mais
justement,
ça n'est pas une métaphore.
Non, je sais bien. Mais pour moi, une métaphore fait corps aussi, hein, contrairement à toi, en fait.
Ah, enfin,
je
veux dire, ça fait consistance, la métaphore. Oui, mais là, c'est on est vraiment du côté de la
structure.
On est vraiment du côté de la structure, je crois, pour le coup.
Mais pour moi, elle fait pas savoir, quand même.
Mais, pardon.
Elle fait pas savoir.
Elle fait pas savoir.
Non, elle ne fait pas savoir.
Non.
Je me permets de me tourner vers Katia.
Elle fait pas systématiquement.
Enfin, je ne veux pas te tendre une peau de banane, Katia. C'est juste par rapport, dans ton rôle de responsable du service des publics, cette complexité, vous vivez très certainement, on va dire, tous les jours avec les visiteurs. Mais comment on peut... est-ce que ça produit quoi? Enfin, fais-nous juste un petit témoignage de comment les gens ressentent les choses, parce qu'on se doute que c'est pas simple.
Après, ça dépend du type de public. Si on parle du public scolaire, c'est pas le même ressenti que quelqu'un qui vient visiter l'exposition seul. qui a été énoncé, c'est ce qu'on ressent aussi, et c'est ce que dit le public, l'élément, la dimension un peu déceptive ou le vide. Mais par rapport à la Hanor, ce qui a été dit, et il me semble qu'il y a quand même une dimension sonore qui est très présente dans cette exposition. Et peut-être que visuellement, pour quelqu'un, ça peut paraître vide, mais le son remplit aussi cet espace. Donc c'est des petites discussions comme ça qu'on va avoir au quotidien. On essaye de décortiquer un petit peu, enfin, dans les visites qu'on fait, dans les médiations.
Mais sur la notion d'exposition de connaissances, le moment que certaines personnes pouvaient imaginer en disant on va délivrer un savoir scientifique, alors bah oui, ce silex, c'est pas scientifique. Là, c'est clair pour les gens, c'est pas scientifique, on est bien d'accord non. que ça ne produit pas de savoir.
Ce qui gênait peut-être au départ pour le tout public, c'est d'avoir des objets effectivement archéologiques et de ne pas avoir de repères avec un cartel scientifique qui dirait cet objet vient de tel endroit, il correspond à ci, à ça. C'était plus ça qui était déroutant.
Il y a quand même une décontextualisation en fait de l'objet archéologique qui pourrait effectivement être critiqué. Enfin, je ne sais pas si aussi tu parlais de rapport au contexte, c'est peut-être de ce point de vue.
Contexte scientifique, non, c'est
d'accord.
pas.
Dans contexte expérientiel.
Oui. Mais je pense qu'effectivement c'est aussi un choix. C'est vraiment un choix quoi. Les artistes.
Mais qui n'est pas, si je puis dire, appropriationniste non plus. Non, c'est la seule façon de rentrer dans ce. Cette approche horizontale.
Oui, parce que c'est dans la mise en relation qu'on peut re-rentrer dans les contextes, en fait. C'est ça qui est intéressant.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... Faites tous pardon, Sandra.
Non,
mais
je t'en prie.
Parce que moi, je dois dire que ça me sidère toujours. Quand les gens disent « je suis déçu », d'une exposition, j'entends. Quoi. C'est-à-dire que si on veut réellement penser et agir cette question de l'horizontalité ou du coup des ensembles ou des espaces ouverts, etc., ça veut dire que l'expérience qui est à faire, elle est à faire sur le moment, avec les règles qui s'imposent, que l'expérience impose elle-même. Donc,
c'est ça l'expérience, en fait.
Moi, je n'arrive pas à l'envisager autrement. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, si c'est clair, mais c'est que à la fois les règles et à la fois l'expérience se construisent au moment, Igeitnung, pour reprendre un vieux truc traditionnel.
Mais bien sûr, tu as raison.
Et donc, s'il y a un vide, il y a affaire au public, puisqu'on est sur Facebook, je peux le dire, public, c'est ça. C'est d'accepter de céder là-dessus, c'est-à-dire d'avoir un discours sûr avant. D'avoir un discours sûr avant d'avoir fait l'expérience, que le discours, il viendra dans l'après-coup.
Ah oui, c'est ce qu'on fait d'ailleurs à l'ISR.
Oui.
Moi, ce que j'allais dire, c'est d'accepter le... C'est ce qu'on appelle nos visites expérience maintenant. Les mots viennent après, de toute façon. Mais en revanche... C'est vrai que c'est quelque chose de moins immédiat. Et finalement, l'expérience de la déception est l'expérience de ce projet aussi. C'est-à-dire, non spectaculaire.
Réfléchir, quoi. Oui. Je pense que j'ai plus réfléchi que si j'avais été comblé immédiatement.
C'est le principe de la frustration quand même. Hein,
non, mais c'est une désorientation. Parce que là, prenez la Hanor. La Hanor, c'est là où il y a le travail sur les sirènes. Prenez juste un an avant le brouillard blanc d'Anne Véronica, donc perte des repères évidente. Mais là, je trouve que quand on arrive là, perte des repères aussi. Pas pour les mêmes raisons, de la même manière.
Vraiment, justement, il y a cette expérience de la couleur du mur qu'on ne peut pas nommer.
Alors, dans tous les cas, Anne Véronica, elle a validé le mur. Hein. Ça, je peux vous dire, quand on a dit on est dans le coton, dans les nuages, c'était bon. Tu vois, et là, ils se sont retrouvés. Mais pour autant, on voyait bien nos pieds, on voyait bien nos mains. Et pourtant, on a été un petit poil désorienté. Moi, je le sais, c'est quand mon ventre me l'indique. Et dans cette salle, je sais que mon ventre me dit, il y a un truc qui se passe. Donc, alors, en plus, la déception, ça correspond à une attente. Une attente, ça correspond à ce qu'on a voulu faire préexister dans son esprit. Or là, il faut arrêter de préjuger, quoi, avec la
femme. Avant, il faut pas oublier à ma décharge qu'on avait discuté et que je n'ai pour une raison précise.
Mais non, mais je... Attends.
On ne devise pas.
On profite. Hein, merci quand même.
Moi, j'ai effectivement été déstabilisé par l'absence de
cartel.
De cartel. Parce que j'ai toujours le réflexe, maintenant, toutes les expos, je fais tout lire. Je fais tout minutieusement. Ici, j'étais obligé de nager, de voler.
Et c'est pas nouveau chez nous, en même temps. Il y en a pas souvent. Hein.
Oui. Ça a renouvelé mon rapport à l'exposition, de toute évidence.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ceux qui ont vécu de près. Non ? Pascal, c'est bon, tu...
Moi, je peux faire un retour de Candide. J'ai vécu cette exposition comme toute exposition de l'ISC sans rien dire avant. Et j'en ai eu l'écart par rapport à ce que tu disais avoir été proposé avant à l'ISC, c'est que j'ai éprouvé le passage, l'expérience de l'œuvre à l'expérience de l'exposition, en vivant cette exposition comme une exposition d'expérience identitaire fondée sur la logique d'écho et donc antérieure à toute articulation de langue, étant précisé pour moi l'art ne signifie pas et qu'il se signifie.
Attends, j'ai pas entendu la fin.
L'art ne signifie pas, il se signifie.
Ah oui, par rapport à l'importance du son qui était souligné, j'ai trouvé que l'importance du son, alors pas forcément seulement en tant que son, mais en tant que notion d'écho, par les circulations de salle en salle, était présente.
Écoutez, sur Cosmopolitique, y a-t-il des questions en général pour boucler la journée ? Une question en guise de conclusion ?
Mais c'est ouvert.
Donc on continue de poser la question.
Voilà.
C'est bon ? On boucle ? Alexandre ?
Oui, d'accord.
Non, mais bon.
Je proposerai donc que cette exposition a aussi une dimension sous-optimale.
Mais elle consiste dans une forme de précarité, cette exposition, tout point de vue.
Elle a créé des stimuli et provoqué la plasticité.
Voilà.
Bon, merci à tous. Alors,
merci.
À bientôt.